Bonjour, je suis Elodie, animatrice numérique au sein de l'Office de tourisme des Terres du Val-de-Loire. Je vous propose aujourd'hui de m'accompagner à la découverte du célèbre fleuve royal. Ah, lointaine est l'époque où l'on voguait aisément sur la Loire. Saviez-vous que jusqu'au milieu du 19e siècle, la Loire était une importante voie maritime ? Gabarres, chalands, toues et autres embarcations typiquement ligériennes s'y croisaient afin de relier les ports qui envoyaient et accueillaient marchandises et personnes. Aujourd'hui, point de commerce ni d'abondant trafic fluvial, mais de jolies balades à faire au fil de l'eau. Enfilez vos gilets, n'oubliez pas votre chapeau et la crème solaire, nous embarquons sur la Loire à bord d'un bateau traditionnel en compagnie de Claire et Denis de l'association Cœur de Loire. Bonjour Claire et Denis, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et nous parler de votre association Cœur de Loire ?
Alors Cœur de Loire, c'est une petite association loi 1901 qui a été créée en décembre 2016 à Main-sur-Loire avec un premier bateau qui était un futreau, un petit bateau traditionnel de Loire à double levée comme des formes de bananes, qui était principalement un bateau de passeurs. Et puis on a très vite fait l'acquisition du bateau atelier, qui est un bateau à passagers. Donc la vocation de l'association, c'est faire découvrir le patrimoine ligérien, la faune, la flore, aider à le préserver, et faire pas mal d'éducation aussi au plus grand nombre, et avec une grosse valeur principale qui est le partage.
Oui, donc moi c'est Denis, donc je suis salarié de l'association Cœur de Loire. Poste là pour Claire et puis un troisième dans la foulée. Donc voilà, comme disait Claire, notre activité c'est justement de faire découvrir ce panorama, ce patrimoine ligérien entre Main-sur-Loire et Beaugency et éventuellement entre Main-sur-Loire et Saint-Y, voire Orléans, en fonction des contraintes de niveau d'eau, de météo. Voilà.
On a eu un premier bateau à passagers qui s'appelle le bateau atelier, qui est une toute cabanée. Traditionnel, un petit peu comme les bateaux de pêcheurs de Loire, qui pouvaient accueillir 6 passagers de membres d'équipage. Et on a commencé la navigation dès mars 2017. Denis a emmené à son bord à peu près 200 passagers la première année. Et au cours de cette année-là, arrivant très vite à l'étiage l'été, c'est-à-dire le niveau le plus bas de la Loire, on a pris la décision de le transformer en gîte insolite, c'est-à-dire en bateau hébergement. Donc il a été équipé d'une couchette pour 2 personnes, un coin café, petit déjeuner, et il a eu beaucoup de succès tout au long de l'été et de l'année 2017, même en novembre ou hors saison. Ça a été la même chose en 2018 avec ce bateau atelier. Et puis très vite s'est installée l'idée d'avoir une petite cuisine ou un petit chalet ou un petit pôle restauration puisqu'on préparait des repas à bord. Mais on devait les préparer du siège de l'association, où les bénévoles préparaient les plats chez eux, et on devait tout transporter sur le bateau pour servir des repas à bord. Donc en 2018, la capitainerie, en coopération avec la mairie de Main-sur-Loire, a été ouverte, avec la dotation d'un chalet, d'un toilette sec et tout l'équipement, avec une terrasse d'une vingtaine de places, trentaine de places.
Donc la capitainerie, voilà, c'est le triptyque entre balade passager, hébergement à bord et une petite partie snack, boisson en bord de Loire. Tout ça encore dans un esprit d'être en front de Loire, être en face de cette Loire qui n'appartient à personne, mais en la respectant énormément, permet à chacun de venir se la réapproprier.
On a eu la volonté aussi de proposer des produits du terroir. On travaille avec Sylvain Arnoux, qui est pêcheur de Loire professionnel à Muide, qui nous fournit ces fabuleuses recettes de terrines de poisson de Loire. On travaille avec les chips Belcia, avec une chaudonnerie de pommes de terre et de chips naturels. On travaille avec Cyril Langlois, qui a la marque La Loire, qui nous fournit des limonades, des thé-pêches, des colas à saveur.
Les vergers de la Manse en Touraine, donc des purs jus de fruits, et puis les fromages qui viennent du Pro du Merle.
Et des vignerons indépendants.
On essaye d'aller au fur et à mesure, hein, on n'a pas d'obligation, mais au fur et à mesure, on étoffe notre gamme de produits locaux. Le but, ce serait d'arriver quasiment à 100% local. Alors, c'est local jusqu'à 100 km. Hein. On peut pas tout avoir dans un rayon de 10 km, ça serait la perfection, mais dans un rayon de 70 km, quoi. Pas trop loin, voilà.
Et en 2018, s'est posé la question du nombre de passagers, c'est-à-dire que le petit bateau atelier avec 6 passagers n'arrivait plus à fournir les demandes, et il a été envisagé la fabrication entière d'un nouveau bateau à passagers, celui sur lequel nous sommes assis aujourd'hui, qui s'appelle le Bout du Monde.
Voilà, donc c'est un bateau mixte, hein, nouvelle génération, à la fois métal et bois, qui permet un très grand confort dans l'entretien, parce que la coque prend pas l'eau, il est auto-videur, donc c'est la sécurité, et puis sa taille fait qu'il a un volume dans l'eau, qui fait qu'il a un très faible tirant d'eau, équipé d'une chaise moteur qui permet le relevage du moteur en hauteur, qui permet justement de passer dans des endroits comme on est venu jusqu'ici, là, on est venu sur une petite bord d'île de Loire, et bien on est venu dans des zones où il y avait 30 cm.
Voilà. Donc avec ces trois pôles, vous savez qui nous sommes.
Les embarcations que vous utilisez actuellement sont-elles les mêmes que celles que nous pouvions voir quelques siècles plus tôt sur le fleuve ?
Alors, les embarcations dites modernes, hein, de toute façon, sont que des répliques. Celles qui sont typiquement traditionnellement, ce qu'on appelle bateau traditionnel de Loire, en bois, total, avec des agrafes clous retournés, un système à lever avec des clins. Donc ce sont des planches, comme sur les bateaux vikings, un petit peu, voilà, planche sur planche qui fait l'étanchéité avec des feutres. À l'époque, c'était des mousses, hein, des mousses, des miels, des résines qui permettaient l'étanchéité. Alors forcément, on a plein de moyens modernes. D'ailleurs, le moteur est déjà l'élément que tous les bateaux ont, sauf les tout petits, les plates, les petits futraux, on peut avoir uniquement une bourde, donc une grande perche qui permet de se déplacer sur l'eau, ou des rames, des avirons, mais tout ça, c'est pas vraiment très confort de faire ce qu'on veut. Quand il y a un gros débit sur la Loire, il vaut mieux avoir un moteur. Donc déjà, le moteur, c'est une chose qu'ils n'avaient pas avant. La chose qu'ils avaient que non perpétue, c'est la voile. Donc ce bateau-là aussi, il est équipé de 50 mètres carrés de voile, hein, ce qui fait l'équivalent d'un moteur de 50 chevaux quand il y a 50 km/h de vent d'ouest, et on navigue par vent d'ouest, donc à la remonte. Donc on peut se laisser descendre et porter par le courant, c'est un moteur. Hein, on l'a vu un peu à la descente, là, on se laisse filer dans le courant, c'est un moteur. À la remonte, s'il y a du vent, on peut éventuellement remonter à la voile, mais l'idéal, c'est quand même d'avoir toujours une motorisation pour passer certains endroits un peu délicats, un petit peu terribles. À la voile, il y a des manœuvres pas toujours possibles, qui était possible avant, et beaucoup moins de ponts sur la Loire, déjà, et beaucoup plus de niveau. Hein, le lit de la Loire, avec l'extraction du sable, c'est énormément... Là, on a baissé la ligne d'eau, donc forcément, les paramètres ne sont pas les mêmes de navigation, et on naviguait jamais l'été quand il n'y avait pas d'eau. Donc on naviguait quand il y avait toujours de l'eau. Donc forcément, déjà, que les bateaux soient différents, l'activité est différente, c'était du transport, donc on pouvait charger sur un bateau comme ça 10 à 15 tonnes de marchandises, pierre, du sable, du sel, du café, du vin, tout ce qui se transportait, alors qu'aujourd'hui on ne transporte finalement que des passagers, on n'a pas trop de charges lourdes. Hein. On ne va pas parler de passagers en termes de charges lourdes.
On parle souvent de la Loire comme étant le dernier fleuve sauvage d'Europe. Est-ce encore vrai aujourd'hui ?
Partiellement, oui. Contrairement à la Seine ou à beaucoup d'autres fleuves où tu vois vraiment les berges qui sont aménagées, habitées, bétonnées, avec des trottoirs,
canalisées, voilà. Des écluses.
Ici, c'est quand même un fleuve sauvage, d'autant plus que la VNF ne borne pas tout le chemin de la Loire. Il y a une partie qui est bornée par la VNF avec des balises, donc qui est balisée comme sur une route, avec des feux, avec des panneaux, avec une signalétique, avec un chenal qui est indiqué, et toute une partie sur laquelle nous sommes qui n'est pas chenalisée, donc d'où la navigation à vue.
Elle est dite non navigable, mais naviguée. Donc, pour répondre pleinement justement à cette question, la Loire en elle-même, elle est relativement compliquée à naviguer à cause de ses grandes variations de niveau d'eau. Et la navigation est de plus en plus difficile à cause de cette extraction de sable qui s'est arrêtée dans les années 80.
Et n'oublions pas qu'il y a des barrages.
Alors après, quand on parle de sauvage, bon, elle l'est parce que il y a très peu d'ouvrages qui canalisent. Il y en a quand même quelques-uns. Il faut la considérer comme semi-sauvage. Hein. On a quand même des cales, on a quand même des ponts, on a quand même des endroits où on a construit des duits, des épis. Donc on a un peu, on a aussi des centrales nucléaires qui retiennent, comme à Saint-Laurent-des-Eaux, complètement l'eau. On est obligé de sortir de la Loire pour le passer en bateau. Donc, sauvage, oui, mais à demi, parce que de tout temps, l'homme est intervenu sur la Loire. Donc, il faut pas se voiler la face. On a toujours modifié plus ou moins. Donc sauvage totalement, non. Après, en termes de faune et de flore, depuis l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, plus l'inscription Natura 2000, ça a arrêté, je dirais déjà, de construire ou de modifier ou de toucher à la nature. Donc forcément, si on laisse la nature faire, elle reprend ses droits, elle crée des îles, les arbres se développent. Un des panoramas qui est là aujourd'hui, qu'on peut considérer comme sauvage par rapport à ce que c'était avant, du temps de la marine de Loire jusqu'en 1850, il n'y avait pas d'arbres sur les îles, pas d'arbres sur les berges. Ça aurait coupé les bateaux à la voile du vent, ça aurait coupé le vent. Maintenant, aujourd'hui, tous les arbres prolifèrent. Bien, pas bien, pour plein de raisons. Des fois, c'est particulièrement pas bien de laisser les arbres. Quand ça tombe, eh ben, ça va aller se mettre dans les piles de ponts et ça va créer des espèces d'épis, des retenues d'eau qui n'est pas très très bon finalement pour... Il faudrait mieux continuer aussi à entretenir un petit peu les berges. Voilà.
D'où vient son surnom de fleuve royal?
Alors le fleuve royal, c'est tout simplement, ça a été énormément utilisé justement par les rois de France, hein, par le roi et sa cour, qui a trouvé, enfin ils ont tous trouvé, alors il y a une espèce de patrimoine immatériel, ils ont trouvé dans cette région, la vallée de la Loire, beaucoup d'atouts et beaucoup d'intérêts. Premièrement, de pouvoir se déplacer à proximité de la capitale, c'est pas très très loin tout ça, on sait qu'Orléans est à 100 km. Après, on a la Loire qui permettait justement de bouger dessus, et cette proximité de la Sologne, de la Beauce, de l'Estuaire, donc plein de du côté d'Orléans, on a aussi après, quand on part de côté, on a la proximité du Rhône, hein, donc on a un peu dans le centre de la France, ça permettait de rejoindre le sud, le nord, les rois s'y sont installés, et il ne faut pas se leurrer aussi, la qualité de vie, c'est-à-dire le climat. Un climat relativement doux, on parle souvent de douceur angevine, mais c'est la douceur globalement des bords de Loire, cette Loire qui coupe la France un peu en deux, et qui a toujours au sud de la Loire un climat différent du nord de la Loire, la capitale étant située au nord de la Loire. C'est vrai que le fait d'être un peu nord-sud, on va avoir les châteaux, par exemple, qui vont être des fois construits rive gauche, des fois rive droite, ça va dépendre des villes. Mais la proximité aussi fleuve royal, parce qu'il y avait aussi de quoi construire. Donc du bois, de la pierre, donc de construire des châteaux, des événements, des monuments qui permettaient de se déplacer. On parle de mobilier, hein, tout se déplaçait. D'ailleurs, par bateau, on a des écrits qui restent, hein, que certains rois de France ont commandé une vingtaine de bateaux pour descendre tout leur mobilier de, on va dire, d'Orléans jusqu'à Chambord, hein, à proximité de Chambord. Voilà.
La Loire abrite une faune et une flore d'exception. Quelles rencontres sommes-nous susceptibles de faire sur la Loire?
Beaucoup d'oiseaux. Vous avez déjà tous les oiseaux migrateurs, hein, qui arrivent. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup de hérons, beaucoup d'aigrettes, pas mal de mouettes. Il y a des oiseaux qui sont un peu sédentarisés, voilà, des cormorants. Ils sont venus habiter en Loire, et puis après, il y a tout ce qui peut être poisson, hein, tout ce qu'il y a dans le fleuve.
On va retrouver en fait trois éléments. On va retrouver l'air, on va retrouver l'eau, et on va retrouver la terre. Donc, entre ces trois éléments-là, on va avoir plusieurs panoramas de faune et de flore. On va avoir la végétation partout, l'eau et sa façon de se conduire sur l'eau et justement de modifier la terre. On va avoir également dans les airs beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Claire le disait, mais on va avoir un très grand panel d'oiseaux. On va avoir le bel busard pêcheur, on va avoir le héron cendré, on va avoir le grand héron, l'aigrette, l'aigrette garzette, la grande aigrette. Là, on a un petit chevalier guignette, on va avoir du martin pêcheur. On va avoir vraiment un panorama très très large d'oiseaux. On va avoir aussi des castors, des loutres. Ici, on a une petite zone où on peut apercevoir à certains moments de la journée des castors. Ça s'est énormément développé depuis les années 80, on l'a réintroduit. Donc des castors, on va avoir forcément toutes les traces du castor sur les berges, donc de couper les arbres en mine de crayon, les faire tomber pour manger ensuite les feuilles. Et ensuite on va avoir la partie de l'eau surface plus sous l'eau, donc là on va avoir du migrateur numéro 1 qui a un peu disparu et il en reste très très peu de spécimens, c'est le saumon. On va avoir de la lamproie, de l'anguille, du brochet, du cendre, des ablettes, des goujons, des brèmes, des chevennes, des perches, des mulets. Donc on va avoir aussi à la fois des poissons qui sont là dans leur milieu et dans leur biomasse. Il y a un certain nombre de poissons avec une certaine quantité de matière à manger et à se développer, se reproduire Et on va avoir des migrateurs qui, eux, vont venir soit dans un sens, soit dans l'autre. Hein. D'ailleurs, la seule qui part se reproduire, elle, c'est l'anguille qui part se reproduire. Et les autres poissons qui vont venir se reproduire en venant traverser la Loire, remonter la Loire. Donc on va retrouver dans ces trois éléments à peu près tout notre environnement.
Sans oublier les cygnes, les canards.
Et l'idée, c'est d'être aussi à bord d'un bateau. Ben, c'est le meilleur. Finalement, c'est la meilleure chose pour pouvoir faire ces trois observations. On est au cœur de l'eau, on peut aller relativement facilement à une berge, et il n'y a pas meilleur panorama que au milieu de l'eau pour voir le ciel. Sur une toit ouverte, c'est magnifique.
Pouvez-vous nous parler de vos balades sur l'eau? Que proposez-vous aujourd'hui au public?
On a plusieurs formats de balades. La petite balade d'une heure, qui est une balade découverte. C'est la balade de sensibilisation, c'est un peu la première découverte sur la Loire. Elle plaît beaucoup aux familles avec de jeunes enfants, parce que c'est pas trop long. C'est très intéressant parce que les enfants s'intéressent à toute l'histoire de la marine de Loire, justement à l'observation de la faune et de la flore. Et après, on a une balade beaucoup plus prestigieuse et beaucoup plus longue, qui dure 2h30, qui permet, quand il y a suffisamment d'eau, d'aller à Beaugency et de revenir, qui est plus axé sur le patrimoine et sur l'histoire. Après, on met en place aussi des pique-niques, des apéros. Donc, selon l'heure de la journée, si ça se fait au moment du midi, il y aura une balade avec un pique-nique, avec un petit mangement, ou une balade coucher de soleil ou apéro le soir. Et après, c'est à la demande.
Voilà. On a aussi le repas dit gastronomique, hein, c'est-à-dire que voilà, on se sert de toutes nos compétences. On a un bateau équipé cuisine, toilette, donc on peut recevoir une dizaine de personnes et attaquer un menu, on va dire, purement nigérien, entrée, plat, fromage, dessert, avec des vins de Loire, sur un accord mets-vins, avec que des choses fabriquées par nos soins, voire travailler directement devant les personnes. Tout ça au milieu de la Loire, dans un mode, on va dire, on a l'habitude de dire le plus beau restaurant du monde. La terrasse, elle est juste exceptionnelle.
Merci Claire et Denis pour cette incroyable visite. Vous aussi, vous souhaitez partir à la découverte des richesses de la Loire? Vous pouvez réserver dès à présent votre visite depuis le site internet de l'association. Je vous glisse le lien et les informations pratiques en description. Retrouvez l'embarcadère de l'association Quai Jeanne d'Arc à Main-sur-Loire. L'occasion également de découvrir la Capitainerie, un espace de restauration rapide à l'esprit guinguette en bord de Loire. Bonne ambiance assurée! Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite sur nos terres du Val-de-Loire.